Variation.
Variation.
Poésie, de politique, on éclate de la poésie,
mise en voix,
mise en bouche. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche, du politique qu'on éclate.
Du politique qu'on éclate bouche. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h. Femme, non féminin. Petit 1, être humain adulte du sexe féminin. Petit 2, épouse. Familier, bonne femme. Femme avec une intention péjorative ou affective. Femme de ménage, rétribuée pour faire le ménage dans une maison. Femme de chambre, attachée au service particulier d'une dame ou chargée du service des chambres dans un hôtel. Prendre femme, se marier. Femme lette, personne faible et sans courage.
Homme, nom masculin. Petit 1, être humain, par opposition aux animaux. Petit 2, être humain, de sexe masculin, par opposition à la femme. Petit 3, être humain, de sexe masculin et adulte, par opposition à l'enfant. Petit 4, populaire, amant, mari. Grand homme, personnage important. Homme de lettres, écrivain. Homme d'État, qui dirige ou a dirigé un État. Homme de loi, magistrat, avocat. Homme d'affaires, qui s'occupe d'entreprises commerciales. Homme de troupe, militaire, qui n'est ni officier, ni sous-officier. Homme de confiance, à qui on confie des missions délicates. Homme de parole, qui tient ses promesses. Homme de paille, prête-nom. Être un homme à, capable de ou digne de. D'homme à homme, directement, franchement, comme un seul homme, tous ensemble. Je ne fus pas une jeune fille libérée. À 20 ans, j'étais tombée dans le premier piège tendu aux ignorantes. Croire que la liberté des femmes était un fait acquis. L'égalité des sexes? Une question réglée par la génération de ma mère, elle qui fut résistante à 18 ans, vota dès sa majorité, travailla sans relâche. Certes, ma mère faisait tout à la maison, mais la faute, pensais-je, devait en incomber uniquement à mon père, de mauvaise volonté. L'accès égal aux études et aux professions? Cela allait de soi. À travail égal, salaire égal. Imposé par la loi. Choisir d'avoir ou non un enfant selon ses convictions personnelles, morales ou religieuses? La moindre des choses. Tout cela, croyais-je, ne méritait même plus d'être discuté. Ces avancées ne s'imposaient-elles pas par leur bon sens? Ne remportaient-elles pas l'adhésion générale parmi filles et garçons de mon âge? Aujourd'hui, quand je me retourne sur ma trajectoire de jeune fille, je vois la traversée d'un champ de mine par une petite créature sans carapace, désarmée par sa propre naïveté, aveugle aux ambivalences de la famille, aux non-dits de l'école, à la persistance des hiérarchies, aux exigences perverties des religions, aux habits neufs du machisme. Je connaissais les règles écrites et officielles. J'ignorais les plafonds de verre, les filets de la bien-pensance ou les sables mouvants d'une libération parfois trompeuse. Je ne savais pas que le corps d'une jeune femme est, et reste, dès qu'il prend forme, un trophée âprement disputé entre mâles, mais aussi l'enjeu d'une lutte sans merci où s'opposent la famille, l'église, l'État, l'école et même le commerce et les médecins. Alors que mes filles atteignent l'âge adulte, je mesure à la fois le chemin parcouru en une génération et les risques nouveaux qui menacent des droits et des libertés qu'on aurait bien tort, une fois encore, de tenir pour acquis. Je suis plus que jamais convaincue de la nécessité de transmettre le long combat de nos mères et de nos grands-mères, celui des héroïnes du temps passé, célèbres ou silencieuses, ces millions de femmes qui nous ont ouvert la voie.
Variation.
Variation. Mise en voix, mise en bouche.
La poésie sauvage ou l'ivresse des mots du politique, on éclabousse de la poésie qu'on débouche du
mise en voix.
Mise en bouche.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche du politique
qu'on éclabousse. Rosa Parks.
Mary Red.
Audre Lorde.
Anne Bonny.
Alice Vickery.
Emma Gold.
Olympe de Gouges.
Simone de Beauvoir.
Voltairine de Clare.
Kassim Amin.
Thelma Bates.
Smita Krishnam. Nancy Houston.
Virginie Despentes.
Ron Cholo.
Lola Lafont. Christine
Anne
Delphi.
Deval.
Starhawk. Griselidis Real. Et à toutes ces inconnues, ces anonymes de toutes les époques et de tous les instants. Au commencement, je ne sais pas que j'ai un corps. Que mon corps et moi, on ne se quittera jamais. Je ne sais pas que je suis une fille, et je ne vois pas le rapport entre les deux. Au commencement, je fais ce qu'on me dit. Je monte mes chaussettes jusqu'en haut, je ne caresse pas les animaux que je ne connais pas, je ne prends pas les bonbons des messieurs dans la rue. Je ne me rends compte de rien. Je trace des dessins avec la buée sur la vitre. Je malaxe de la pâte à modeler. Je fais des bonshommes et des serpents, des quantités de serpents que je roule entre mes mains. Je ne pense pas. Je mange, je joue, je dors. Je grimpe sur les bancs du square. J'escalade le toboggan par en dessous. Je me pends par les genoux. Je mets mon corps à l'épreuve, en short plutôt qu'en robe. Je saute depuis la plus haute marche de l'escalier, je vais dans les caves et prétends ne pas avoir peur, je brave l'interdit des parents, j'ouvre les portes d'un coup de pied sec, je confectionne une arme avec un bâton et le couteau que j'emprunte à Robbie. J'ai conscience que je lutte, je ne sais pas contre quoi. Je chasse le féminin, mais je ne le sais pas. Le délicat, le sensible. Je suis un bulldozer. Un petit roc qui ne pleure pas quand il s'écorche les genoux, qui garde bien rentré l'humiliation d'être tombé de vélo. J'avance, les mains dans les poches. Je dis « ouais ». Je dis « ouais, ouais ». « Vermicelle », dit ma mère qui ne se doute pas. « Petite anguille, mais c'est un asticot. Petit animal, sors de ta carapace. Mais il a des griffes, c'est une bête sauvage, un tigre du Bengale qui rugit. Non. « Ma fille, tu ne dois pas mordre, tu dois cesser de marcher à quatre pattes. » Ma mère sait que j'ai un corps. Elle veut l'habiller, le montrer sans l'exposer, le protéger en le mettant en valeur. Elle me confectionne une robe avec des volants et un col compliqué. Je reste longtemps devant le miroir, pendant qu'elle assemble les morceaux de tissu, pendant qu'elle pique les aiguilles. Elle décide pour moi d'un destin de fille. Et les vêtements qu'elle coud sont trop ajustés, m'étranglent plus qu'ils ne m'enveloppent. Elle m'empêche, sans le savoir, de bouger, de respirer, de contester. Je m'échappe. Je refuse cette histoire. Je marche pieds nus sur le sable quand arrive l'été, vêtue seulement d'un slip de bain. Je me roule dans les vagues qui se brisent sur le bord. L'eau me fait du bien. Je suis comme dans une machine à laver et j'en ressors calmée. Puis je fais des pâtés, pas des pâtés de filles, des pâtés normaux, avec des coquillages incrustés, des algues qui sentent mauvais. Je fais des mélanges, j'imagine une petite fabrique de travaux publics. Je construis des ponts, des douves, des remparts pour le château. Ma mère dit qu'il y a une princesse enfermée dans la tour. Une princesse avec une longue robe pailletée. Il faudrait la libérer. Je n'ai pas prévu de princesse sur mon chantier, qu'on la zigouille. J'ai deux yeux, deux oreilles, une bouche. On m'apprend à articuler, à sourire. On me demande de ne pas parler trop fort. J'ai deux épaules, deux bras. On m'encourage à porter les sacs au retour du marché. J'ai deux poumons, un estomac. On m'invite à manger avec une fourchette, à ne pas parler la bouche pleine. On m'invite à ne pas me tortiller sur ma chaise, à ne pas mettre les pieds sur la table, ne pas montrer ma culotte quand je suis installée au fond du canapé, ne pas m'asseoir par terre. On me demande de me recoiffer. J'ai les joues rouges, les vêtements froissés. J'entre dans le monde des femmes, en même temps que dans le monde des chiffres. C'est le début d'une ère nouvelle dominée par le 28, qui oblige à compter. les jours et les semaines, la régularité, les retards, les aménorrhées. L'existence s'installe dans un rythme nouveau. 4 semaines pile, c'est quand même incroyable. C'est le chiffre des filles. Mais pour moi, ça ne marche pas, c'est un peu l'anarchie. Il me faut prendre mon temps, et je comprends que c'est embêtant. Le docteur Grange me demande si j'ai un cycle régulier, et je ne sais pas répondre. Le mot me fait penser au vélo de mon frère. Il y a plusieurs catégories de filles, les adeptes du 28 et les fantaisistes, dont le corps rechigne. C'est le ventre qui existe soudain, prend vie, devient chaud. C'est le ventre qui fait mal à la tête, met le cerveau dans un étau. Je n'aime pas cette ébullition, l'impression d'être un alambic qui infuse, transforme, distille, impose une chimie compliquée. Je n'aime pas l'idée d'être une fabrique, une usine et encore moins une matrice. Les filles sont indisposées, comme on dirait indisponibles ou empêchées. On dit aussi que les filles sont formées. Cela est effrayant. Les filles entrent dans la catégorie des femmes, ce qui les apparente à leur mère, induit comme une complicité. Ce n'est pas cette intimité que je veux. Je ne vois pas comment partager. Je pressens que cette appartenance est encombrante. Il va falloir me sauver.
Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi, aussi j'avais des couilles, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, ouh, pisser debout, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue, alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau, alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, ouh, pisser debout, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginales. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Moi, si j'étais un homme, je serais la capitaine d'un bateau, non, j'irais plutôt me taper des buts. Je remplacerai la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter en meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un Don Juan. Oh, si j'étais un homme, si seulement. Ouh, si seulement je pouvais pisser debout. Pisser debout. Ooh.
aujourd'hui les femmes ne se plient plus aux désirs des hommes. Elles ne devraient plus se plier aux diktats des médecins. Aujourd'hui en France, les femmes ont le droit de vote, elles sont majeures et responsables au même titre que les hommes. Elles ont les mêmes droits et les mêmes obligations devant la loi. Elles décident seules d'avoir des rapports sexuels ou de les refuser, de prendre une contraception, d'avorter, d'enfanter ou de se faire stériliser. Personne n'a le droit de les asservir ou de les infantiliser. Aujourd'hui pourtant, lorsqu'elles sont enceintes ou ne désirent pas l'être, lorsqu'elles veulent pratiquer un dépistage du cancer du col ou faire soigner un symptôme gynécologique, les femmes sont encore systématiquement contraintes de s'allonger sur le dos, cuisses écartées, sexe exposé, dans une position humiliante imposée par les médecins sans aucune nécessité médicale. La posture dite à l'anglaise, sur le côté ou en décubitus latéral, permet tous les gestes gynécologiques courants. Elle permet également de procéder à des accouchements en toute sécurité, si la femme le désire. Dans de nombreux pays du monde, c'est dans cette position que les femmes sont examinées, soignées ou accouchées. Et dans cette même position, elles peuvent choisir de voir ou non ce que les médecins leur font. Nous exigeons que les médecins français proposent à toutes leurs patientes d'adopter, si elles le désirent, le décubitus latéral en lieu et place de la position gynécologique machiste et archaïque qui leur est encore imposée en ce début du XXIe siècle. Nous exigeons que cette obligation soit inscrite dans le code de déontologie et dans le code de la santé publique, dans les guides de bonne pratique remis à tous les médecins en activité, dans les cours et les enseignements dirigés de toutes les facultés. En France, au XXIe siècle, les femmes ne devraient plus être contraintes à écarter les cuisses devant les médecins. Oui, je sais. Je sais que je rêve tout éveillé. Je sais que je ne sais pas qui est ce « nous » qui exige. Je sais que c'est prendre ses désirs pour des réalités, je sais que c'est un vœu pieux et je sais que c'est pas demain la veille. Je sais que les femmes plient encore sous le genou et la queue des hommes et qu'avant qu'elles ne plient plus sous le poids odieux des médecins, il y aura encore longtemps des médecins hommes et femmes, car ce n'est pas une question de sexe, c'est qu'une question de pouvoir, qui continueront à leur fourrer leurs doigts, leur instrument, leur appareil dans le sexe sans se demander ce que ça leur fait, sans se poser la question de savoir ce qu'il y a derrière, ce que ça veut dire pour elles, sans jamais mesurer, je pèse les poids de mes mots, combien cela fait ressembler les médecins à des bourreaux. Je sais que mes mots ne valent pas ce qu'ils valent, mais justement ce sont les miens. Avec ces mots, je vous les balance avec ma rage au bout des doigts, et cette rage me fait du bien.
Je veux tout.
Je veux tout. Je ne veux pas être définie par mon genre, mes origines, mon âge, ce qui est écrit sur mes papiers.
Je veux pouvoir travailler quand je le décide et quand cette activité fait sens pour moi.
Je veux disposer de mon corps et donc de mon présent et de mon futur. Je veux pouvoir avorter une grossesse non désirée. Je veux choisir comment accoucher et accéder au contraceptif de mon choix.
Je veux être mère sans être l'unique responsable des enfants. Je ne veux plus être celle qui garde le contact avec les vieux copains, la belle famille, celle qui rejoint son partenaire, qu'on me rejoigne.
Je ne veux plus être de celle qui est éternellement à l'écoute, celle qui trouve les solutions.
Je veux des relations sexuelles égalitaires, belles et fortes.
Folle. Je veux jouir.
Je veux jouir.
Je veux jouir.
Je veux pouvoir vivre sans être amoureuse ni mère.
Et je vous emmerde.
Je veux aimer le vernis rose et la littérature russe.
Je veux éviter aux jeunes filles de passer par la case viol, qu'elles sachent se défendre.
Je veux qu'elles aiment leur corps, assez, pour ne pas accepter n'importe quoi.
Je veux que nos garçons puissent être sensibles, s'exprimer et choisir, libres de ne plus être que hommes.
Je veux des petits espaces de vie communs un peu partout.
Je veux être une immigrante, dans un pays qui reconnaît la beauté de la diversité culturelle.
Je veux de la bienveillance et le partage des biens communs.
Je veux que la peur ait peur d'elle-même et que d'un coup meure de peur.
Je veux chanter quand je veux.
Quand je veux.
Et où je veux.
Où je veux.
Sans être prise pour une folle et sans qu'on me demande si je suis bourrée.
Je veux gueuler quitte à ne plus être féminine. Je veux avoir le droit de dire des conneries et de ne pas savoir.
Je veux apprendre et transmettre.
Je veux créer.
Je veux jouer.
Je veux créer.
Je veux de la douceur, de la tendresse. Je veux des nuits qui me tiennent éveillée et des jours qui me laissent en repos.
Je veux être grosse. Je veux être moche. Je veux être vieille. Et qu'on me lâche avec mon physique.
Mon physique ? Je veux porter la mémoire de toutes les folles du monde.
De toutes les folles.
De Buenos Aires à Paris.
De Buenos Aires à Charco. Je veux que les mecs aussi soient libérés de cette domination-là, ne plus vivre dans des rapports de force où chacun doit prouver quelque chose à l'autre.
Je veux trouver beau ce que je vois du monde quand j'ouvre ma fenêtre.
Je veux des moments de rire qui me laissent des crampes dans les joues et dans le ventre.
Je veux être surprise.
Je veux être gourmande.
Je veux prendre le train.
Je veux découvrir des goûts, des idées, des mots,
des langues,
des pays, des personnes.
Je veux casser la gueule à la morale qui empêche de penser.
Je veux ouvrir des zones de liberté. Je veux entendre autant d'histoires qui seront des exemples que c'est possible.
Rien qu'une peut suffire.
Je veux avoir le temps d'être triste.
Je veux avoir le temps d'être triste. Je veux vivre la solitude et m'éclater dedans. Je veux savoir ce que je veux et faire avec ce que je ne sais pas. Je veux voir mes désirs changer avec le temps et changer avec eux. Je veux vivre des relations authentiques.
Je veux que la première question qu'on me pose ne soit pas...
Tu fais quoi dans la vie ?
Mais...
Qu'est-ce que t'aimes dans la vie ?
Je veux me balader à toute heure.
Je veux prendre ma place et arrêter de la chercher.
Je veux prendre la parole quand j'en ressens le besoin.
Je veux que ça dépote.
Que ça dépote.
Je veux avoir le courage de désobéir aux lois que je désapprouve.
Désobéir.
Je veux que la valeur humaine supplante la valeur de l'argent.
Je veux un temps, du temps pour m'émerveiller.
Je veux du temps pour m'émerveiller.
Je veux une mort digne qui revigore les vivants.
Je veux une chambre à moi.
Je veux toutes ces choses pour toutes et tous. Je veux tout.
Je veux tout.
Je veux tout.
Je veux tout.
Je veux tout. Moi, je veux tout. Pas toi, moi.
Moi, je veux
non,
tout.
Moi. Non,
je
moi,
veux
je veux tout.
Non, je veux tout.
Non, c'est sûr que moi, je veux tout.
Je veux,
non,
je
c'est
veux,
moi
c'est...
qui veux tout.
Non, mais c'est pas
mais toi,
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 ou moi.
Non, si c'est moi.
Je.
Non, c'est je.
C'est tout le monde.
Non, c'est je, moi.
Non, je
non
tout
c'est
tout
moi.
Non, c'est,
non, c'est moi.
Mais t'es un vrai mec, toi. Hein. Vous voulez quoi ? Me battre.
Battre. Nous sommes la résistance. Nous sommes la résistance. Nous sommes la résistance des femmes opprimées. Nous sommes la résistance. Par celle des femmes.
Le féminisme n'a jamais bien su quoi faire de la coquetterie féminine. Le plus souvent, Il a préservé l'idée chrétienne d'une différence radicale entre corps et esprit, et la surévaluation de celui-ci par rapport à celui-là. Il a raisonné comme si la beauté physique était une valeur aliénante, plaquée sur les femmes par le machisme millénaire, exacerbée à l'ère capitaliste par les industries de la cosmétique et de la mode. Dans cette optique, la coquetterie était quasiment un péché. « Fais gaffe, ma fille !» disaient les mères féministes, tout comme les mères catholiques. « Quand un garçon te fait la cour, demande-lui toujours « Tu t'intéresses à moi ou seulement à mon corps ?» Comme si le soi pouvait se passer d'un corps. Comme si l'esprit était plus authentiquement soi que le corps. Comme si le corps, la manière dont nous l'apprêtons, l'habillons, le coiffons, le maquillons, le bougeons, ne portait nullement l'empreinte de notre esprit. Comme si l'appréciation de notre corps par les hommes, l'admiration dans leurs regards, la tendresse dans leurs caresses, ne produisait pas sur notre soi des effets extraordinaires. Si nous persistons à croire en un moi qui serait sinon immortel, du moins indépendant des vicissitudes de la vie, il est clair que la beauté, par essence éphémère, à l'instar du corps, mais plus encore que lui, devient une sorte d'imposture. Vous, les hommes, vous la regardez, l'admirez, désirez l'approcher pour vous en emparer. Mais ce n'est pas vraiment moi. C'est une apparence, donc trompeuse, puisque je la sais sans poids, pure illusion, leurre, autre que moi. J'ai honte d'avouer l'importance qu'elle revêt à mes yeux. Chaque femme pourrait écrire l'histoire de son rapport à la beauté, analyser la place qu'a occupée dans sa vie son apparence physique. Ayant moi-même été, dans ma jeunesse, non une grande beauté, mais une femme plus que moyennement mignonne, mon corps a été scruté, détaillé, jaugé, jugé et commenté par des milliers d'hommes inconnus un peu partout dans le monde. Et ceci de façon tantôt sympathique, tantôt antipathique. Jeune, je réagissais à ce phénomène avec fureur et indignation. Même quand je n'étais pas personnellement impliquée, quand je voyais par exemple une affiche de film ou une couverture de magazine montrant plusieurs hommes matant une femme nue ou quasi nue, la rage féministe m'étranglait. Il m'a fallu longtemps pour admettre, ou plutôt pour me rappeler qu'existe aussi chez les femmes, le désir d'être matée. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, deux événements ont infléchi la destinée des femmes en Occident de manière radicale et en sens contraire. L'invention de la photographie et le féminisme. Les effets existentiels sur notre vie de ce double mouvement sont tantôt cocasses, tantôt sordides, voire tragiques. Aucune société humaine, sans doute, ne s'est trouvée empêtrée dans une contradiction aussi inextricable que la nôtre, qui nie tranquillement la différence des sexes, tout en l'exacerbant follement à travers les industries de la beauté et de la pornographie. Nous montrons du doigt les femmes qui se couvrent les cheveux. Nous, on préfère se bander les yeux.
Je n'ai aucun souvenir de ma sexualité de jeune femme. Il a quand même dû y avoir des passions, des nuits meilleures que d'autres, des endroits insolites, des culpabilités cachées. Tout cela, j'en ai aucun souvenir. Il est probable qu'on ne se lâchait jamais tout à fait. La fellation, par exemple, c'était toujours un peu dans l'enfer, tu vois. Il ne fallait pas, vis-à-vis des hommes, avoir trop de se conduire comme une prostituée. Or, se faire sucer pour un homme, souvent, c'était des manières de prostituer. Et puis, on avait la peur d'être à nouveau enceinte. Moi, je n'ai eu que 4 enfants, et je n'ai pas eu d'avortement. Mais moi, j'ai eu plein de copines qui ont eu 7, 8 gosses. Et j'ai une amie qui est morte maintenant, et elle a eu 15 avortements. C'était si terrible. Je me suis rendu compte très très vite que j'allais être enfermée pendant des années. Alors, c'était une douleur sourde, mais je ne lui donnais pas de nom. Je n'arrivais pas à la formuler, cette douleur. J'avais une partie de mon désir qui avait dû être tué, qui était mort, parce qu'il a été tué. Et à 42 ans, j'ai commencé, avec mes 68, à faire bouger mes petites ailes, et qui sont devenues démesurées, mes petites ailes. Le début de mai 68 pour les femmes, ça a été des écluses qui s'ouvraient, des fleuves de paroles qui couraient. On sentait qu'il y avait des millénaires de retenue, d'enfermement, de punition, de tout ce qui faisait que les femmes étaient les servantes de l'autre sexe. Et parce que j'ai retrouvé des amis, des sœurs, des compagnes de lutte, de militance, de résistance, de subversion, ces compagnes-là m'ont appris le corps autrement. Avec les copines, alors ça avait un sens très politique parce qu'on se disait, si on baise entre nous, ça il est évident que les mecs ils pourront s'accrocher. Et on menait des joyeuses bandes ensemble. J'ai dû faire 10 000 fois l'amour dans ma vie. J'ai eu 4 enfants, donc tout le reste, c'était pas pour faire des enfants, vous voyez. C'était pour avoir du plaisir. Et le plaisir vous équilibre, vous rend intelligent, vous rend apte à aimer l'autre, à aimer les autres aussi. Cela vous ouvre d'une manière extraordinaire, le plaisir. Je suis peut-être encore apte. Des fois, je me dis, est-ce que je suis encore apte? À vrai dire, je n'aime que les fous. Et les fous sont difficiles à vivre. Tu me dis, mon Dieu, cette folie va me réserver quoi? Alors, non. Non, vraiment. À chaque fois, des fois, dans le métro, je vois des vieux ou des vieilles qui me plairaient bien. Puis je me dis, ouais. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Pourquoi?
J'ai grandi dans une famille de gauche, féministe, où l'on partageait beaucoup entre femmes, nos émotions et de la tendresse corporelle. Je suis très à l'aise dans mon rapport au corps. J'aime les hommes, j'aime les corps en mouvement, étendus. J'aime les toucher, les découvrir. J'ai passé la plupart de mon enfance avec des femmes de mon âge. Mais de masturbation, il n'a jamais été question. La masturbation restait l'apanage des garçons, des rugbymen dans leur vestiaire. J'ai commencé à faire du sexe à 14 ans. À cette époque, je considérais la sexualité comme un service. Je donnais mon corps à un homme pour le remercier de sa présence à mes côtés. Lors de mes premiers rapports sexuels, je n'arrivais pas à savoir si j'avais envie de faire l'amour. J'avais besoin qu'un homme me mette un doigt dans la chatte pour que je voie si j'avais envie ou pas, selon le liquide qui s'y trouvait. Bref, de la chair à soumission. Mon goût pour les corps, mon avidité de caresses créait chez mon partenaire un désir que je me devais d'assouvir par la pénétration. Jamais je n'ai remis en question l'hétérosexualité, puisque je n'imaginais pas la possibilité de vivre ma sexualité autrement qu'avec des hommes, et donc des bites. À cette époque, je pensais « pénétration » égale « but ultime de l'acte sexuel ». Je suis impressionnée par les prouesses de l'autopersuasion, puisque pendant 5 ans, j'étais incapable de jouir sans pénétration. Je ne regardais jamais mon sexe en face. Je savais vaguement que j'avais un clitoris. J'ai rencontré des garçons gentils, d'autres moins. Un m'a aidé à prendre plaisir, à voir la sexualité autrement. Mais j'attendais toujours de mon partenaire qu'il me fasse découvrir mon propre plaisir, mon désir et les zones érogènes de mon corps. J'ai grandi dans un milieu contestataire et politique, mais jusque-là, la sexualité, je l'ai vécue de la manière la plus conventionnelle possible, dans l'attente. Alors que merde! Comment un autre être, et d'autant plus un dont le corps, le sexe et le rapport qu'il a avec ne sont pas les mêmes, pourrait me dire comment moi je fonctionne? Là-dessus, j'ai rencontré des hommes qui me disaient que mon désir était important. Et même si j'ai de l'estime pour ces hommes, c'est encore une fois eux qui m'apprennent des choses sur ma sexualité et moi qui les écoute béatement. Il y a quelque temps, j'ai commencé à rencontrer la non-mixité, à regarder mon sexe, à l'aimer, à prendre conscience que toutes nous en avions un. Au début, je me sentais ridicule. Je riais nerveusement lorsque j'essayais de me toucher. Je le faisais en lisant, sans m'y adonner pleinement. La critique de la raison pure n'est pas le meilleur ouvrage pour se laisser aller à la jouissance. J'ai acheté des sextoys. Je les regardais du coin de l'œil sur ma table de nuit pendant des mois. Et puis j'ai réussi à en jouer et à en jouir. J'ai commencé ce texte, puisque maintenant, je m'adonne à la masturbation avec un plaisir d'autant plus intense.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Elle a peur. Sa peur a une odeur plus forte que les aiguilles de pin que foulent ses pieds sur le sentier de la forêt. La terre fume après la pluie de printemps. Son propre cœur est plus sonore que le meuglement du bétail sur le pré communal. La vieille femme porte un panier d'herbes et de racines qu'elle a arrachées. Il semble, à son bras, lourd comme le temps. Ses pieds sur le sentier sont les pieds de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Cela fait des siècles qu'elle marche sous ses chênes et ses pins, qu'elle cueille des herbes et les rapporte pour les sécher sous les avancées du toit de sa chaumière sur le pré communal. Depuis toujours, les gens du village viennent à elle. Ses mains sont des mains qui guérissent. Elles peuvent retourner l'enfant dans le ventre de sa mère. Sa voix murmurante charme la souffrance et la chasse, ou berce l'insomniaque jusqu'au sommeil. Elle croit qu'elle a du sang de fée dans les veines, le sang de l'ancienne race, qui élevait des pierres vers le ciel et ne construisait pas d'église. À la pensée de l'église, elle frissonne. Elle se souvient de son rêve de la nuit précédente, le papier cloué sur la porte de l'église. Elle ne pouvait pas le lire. Qu'est-ce que c'était ? La proclamation d'une chasse aux sorcières ? Elle se passe les mains sur les yeux. Ces jours-ci, la vision est un malheur. Ses rêves sont hantés par les visages de femmes torturées, leurs yeux sans sommeil, les paupières lourdes tandis qu'elles doivent marcher, monter et redescendre nuit après nuit, affaiblies par la faim, les corps rasés et offerts en spectacle à la foule, transpercés pour trouver la preuve qu'ils appellent les marques du diable, puis pris pour l'amusement privé des geôliers. Et ils étaient doux en Angleterre, où les sorcières étaient seulement pendues. Elle pense au récit, murmuré à des réunions venant d'Allemagne et de France, et parlant de mécanismes pour leur écraser les os et leur désarticuler les membres, de veines déchirées et de sang répandu dans la poussière, de chair carbonisée tandis que les flammes s'élèvent autour du bûcher. Pourrait-elle garder le silence sous cette torture, ou se briserait-elle ? Avouerait-elle n'importe quoi ? Dénoncerait-elle, comme ses compagnes sorcières, n'importe qui, toutes celles qu'ils veulent ? Elle ne sait pas. Elle espère qu'elle ne saura jamais. La vieille femme fait le signe de bannissement de sa main gauche et continue son chemin. Peut-être le papier cloué du rêve était-il quelque chose de complètement différent, mais il avait une mauvaise odeur. Enclosure. Vont-ils diviser la terre commune, construire des barrières, détruire les petites chaumières comme la sienne ? Elle sent un coup de poignard sous son corsage et s'assoit, à peine capable de respirer. Oui, c'était ça. Que va-t-elle faire ? Qui parlera pour elle ou l'acceptera chez lui ? Elle n'a pas de mari, pas d'enfant. Autrefois, le village l'aurait protégée, mais maintenant, les prêtres ont bien fait leur travail. Les malades la craignent, même quand ils viennent lui demander son aide. Les villageois ont peur les uns des autres. Les mauvaises récoltes, les loyers des terres, le prix de la nourriture qui augmente toujours. Il y a trop de rats à gratter le même petit tas de grains, et les prêtres et les prêcheurs sont toujours dessus pour se l'accaparer. Mais il y a eu des soulèvements à l'ouest et au nord contre les enclosures. Il pourrait y en avoir ici. Elle se retourne et regarde les profondeurs de la forêt. Un moment, elle est tentée de s'y enfoncer, de suivre le chemin plus loin qu'elle n'a jamais été. Certains ont dit que ceux de l'ancienne race vivaient encore au centre caché de la forêt. L'abriterait-il ? Où trouverait-elle les campements des gens sans maître, des bohémiens, des hors-la-loi, de ceux qui ont été expulsés comme elle de la terre ? La vie serait-elle plus libre sous les arbres ? Aurait-il besoin d'une guérisseuse ? Et surgirait-il un jour des bois et des landes une armée de dépossédés pour détruire les barrières des seigneurs, les châteaux et les églises, pour restaurer la liberté de leur propre terre ? Elle reste immobile. Mais finalement, elle remet son panier à l'épaule et repart vers le village. La jeune Jeunet au moulin est près d'accoucher. Et la vieille femme sait que ce sera une naissance difficile. Elle aura besoin des herbes qu'elle ramène dans ce panier. Elle a peur, mais elle continue à marcher. « Nous avons toujours survécu », se dit-elle. « Nous survivrons toujours ». Elle se le répète encore et encore, comme une incantation. « Nous survivrons encore, dans la culture de la distance. » Pour combien de temps ? Nul ne le sait. Mais pour transformer cette culture intelligemment, nous devons la comprendre, trouver ses racines, connaître son histoire. Non que la mise à distance découle linéairement d'un événement ou d'une période historique particulière, mais parce que le passé est toujours vivant dans le présent.
Respect.
imagine. Imagine un accident. Imagine une connaissance, un ami, quelqu'un avec qui tu es allé dans des cafés, peut-être même au cinéma. Imagine que tu ne sais plus vraiment quoi faire de l'avenir maintenant. Imagine que c'est un accident, un incident, ça n'a donc aucun sens sauf celui-là. Voilà, presque la mort, voilà la fin. Voilà que quelqu'un te hait suffisamment pour te pénétrer de force pendant que tu pleures. Voilà que tu viens de comprendre que tu es une conne. Tu vivais peut-être les yeux fermés. Imagine un moment précis où tu sais que tu es pile en train de finir la première partie de ta vie. Le seul souvenir qu'il reste, heureusement, n'est pas celui de la douleur physique, mais celui d'un blanc déchirant, d'un flash dans la tête. Un blanc, voilà. Comme on dit dans une conversation, il y a eu un blanc. Un espace où ton cerveau a cessé d'analyser, a cessé de sentir. Tu es sorti de ta propre vie, de ton propre temps présent. Tu es en toi et tu es aussi à l'extérieur, témoin. Je voudrais lui demander, mais comment t'as pu ? T'aimais pas mon âme ? T'aimais pas mon corps ? T'aimais pas mes rires ? Mais comment t'as pu ? Pourquoi moi ? Comment t'as pu faire ce que je ne peux pas dire alors que j'étais tremblante, étranglée ? Imagine que tu te relèves et que tu es quand même vivante. Dommage. Il s'est rhabillé, mais pour toi c'est fini. Tu ne sais pas encore, bien sûr, qu'un jour tu vas tomber très amoureuse. Tu n'imagines pas les mensonges que tu chercheras pour éviter d'expliquer ta peur folle qui te fait tout confondre, qui te rend insomniaque à côté d'un jeune homme, alors que ce n'est pas de lui dont il faut avoir peur. Tu ne sais pas encore le nombre de journées passées collées à un radiateur sans sortir. C'est ça qui est bien dans le présent qu'on vit, on ne sait rien. On ne sait pas que sur des années si longues, cette histoire va agir à la façon d'une bombe atomique. Des radiations lentes, infinies, qui vont peu à peu tout brûler, au dernier degré, tout déchiqueter, même un amour de dingue pour un homme qui tombait si bien. Imagine tout ça sans les détails comme la douleur physique, la peur de mourir, l'étouffement. Les détails sont là pour convaincre ceux qui ne me croiraient pas. Ils sont sans importance. Maintenant, il faut que tu fasses un effort réel d'imagination. Les minutes passées à être crucifié t'ont emmuré. Cet accident s'est mis à faire partie de ton corps. Malheureusement, tu es foutu. Des mains sont sur toi tout le temps, alors tu ne veux plus de toi avec ces mains qui ont forcé un passage pour longtemps. Comment te faire disparaître ? Pendant longtemps, j'ai évité une seule pensée, la seule qui faisait que j'avais envie de me cogner la tête contre mon mur au point de perdre ma conscience. Chaque fois que le début de cette idée m'apparaissait, je m'affairais comme s'il fallait tuer un scorpion géant qui menaçait mon espèce. Le son. Il ne faut pas que je pense au son. Le souvenir du son, les images, tu les brouilles. Mais le son pur et chargé d'un sens qui ne présente aucun doute. Je ne veux pas penser à son cri de plaisir pendant que moi, j'ai dit au revoir à la gentille petite fille, un enterrement subi et imprévu. Quand j'y pense, je cours, je garde l'œil fixé sur quelque chose à atteindre pour ne pas y penser. Il va falloir aller loin pour arriver quelque part. Mais le son, il tourne dans ma tête, plus précis encore qu'un enregistrement numérique, et ce n'est plus possible d'envisager que ça n'existe pas. Je veille, en alerte maximum, en état de siège, je me livre une guerre à domicile, je veille. Il ne faut pas tomber, pas s'arrêter. Toute seule, c'est dur, si je me tords la cheville en courant, trop vite, dans des monceaux de phrases dégueulasses, de mains qui me maintiennent couché, je tombe. Alors quelques étoiles noires me saisissent, juste au moment où je vais tomber pour toujours, et me tiennent fermement par le bras, un de chaque côté. On fait la chaîne solidaire, un bloc, un black bloc. Je ne peux pas tomber. Et si mes larmes coulent, là, devant les flics qui nous visent au flashball et veulent nous mettre à terre, c'est uniquement parce que le foulard noir qui couvre ma bouche vient d'être transpercé de lacrymo.
Vous êtes bien installé ?
Oui, c'est parti pour le décollage !
1, 2, 3, 4 !
Des textes.
Bibliographie.
Source.
La bibliographie de Variation.
L'intro du dictionnaire, une édition de 1999.
Ensuite, La plus belle histoire des femmes de Nicole Bacharan.
Un extrait du roman d'Anne Giraud, Avoir un corps.
Pisser debout de Guidre.
Le roman Le cœur des femmes qui a été écrit par Martin Winkler autour de la gynécologie.
Je veux tout, un texte collectif magnifique à retrouver sur le site internet de Kat Fleischer.
La chanson de Dubamix qui s'appelle Les petits tracts.
Nancy Houston, reflet dans un œil d'homme.
Puis un extrait du coup de Thérèse Claire qui a été interviewée dans le film Les Invisibles.
Après la masturbation, puisée dans une fanzine, Plaisir de femme.
La chanson de Colette Renard, Les nuits d'une demoiselle.
Et sur les sorcières, Rêver l'obscur, femme magie et politique de Starhawk.
Un extrait trop court de la compagnie CTA qui s'appelle Les sorcières, une compagnie de Marseille.
Lola Lafont, encore elle, nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce.
Et pour introduire le prochain thème,
Maria Republica.
Et pour introduire le prochain thème,
sur les révoltes, ça sera le texte de Maria Republica d'Augustin Gomez Arcos.
Suivi de la chanson La grève des mères de Monteus, repris par les amis de ta femme.
C'est qu'on est dans une énorme contradiction quand on est dans un corps de femme.
Drôle de contradiction. D'un côté, on nous dit « cache-toi, planque ton sexe ». De l'autre côté, on nous dit « exhibe-toi, tu plais, tu fais vendre ». Faudrait s'entendre. D'un côté, on nous dit « sois pudique, montre pas ton cul ». Eh oui. De l'autre côté, on nous dit « montre tes jambes, tu plais ».
Je savais que ma syphilis était contagieuse. Le docteur me l'avait dit et redit. Qu'il fallait me soigner et, le plus important, refuser que les hommes me pénètrent sans préservatif. Pour ça, il a insisté le médecin. Il disait que je risquais de contaminer, à moi tout seul, la bourgeoisie politique de la ville. Car c'était notre principale clientèle. Les gros commerçants avaient des maîtresses, et le peuple était trop pauvre pour les putains, ils préféraient manger. Moi, mon père, j'étais une putain chère. J'avais du succès. Avec un passé politique comme le mien, c'était presque normal. Un passé qui avait fait du bruit. Personne, pas même le maire de mon village, n'avait réussi à me faire changer de nom. Je m'appelais toujours Maria Republica, la putain rouge. Mes matinées et mes après-midi étaient tous retenus par des conseillers municipaux, des fonctionnaires, des décorés des trois corps de l'armée, qui venaient « baiser la Republica », comme ils disaient en riant. Toutes sortes de clients qui étaient peu ou prou en relation avec l'État. Plus mon champ d'action s'étendait, plus s'étendait mon labeur de contamination. J'observais donc mes clients jour après jour, chaque fois un peu plus pâles, plus décontenancés, se grattant la braguette avec de plus en plus d'insistance. Lorsqu'ils se déshabillaient, sans aucune pudeur ni de ma part ni de la leur, une goutte ignoble pendait de leur pénis, perle de malheur. Ils ne pouvaient plus contenir l'envie d'uriner toutes les 2 minutes. Quand arrivait l'orgasme, c'était dans des cris de douleur. J'étais heureuse. Ces moments-là, je le confesse, mon père était pour moi les plus sublimes de la vengeance, son apothéose. Aucun de ces hommes ne m'a jamais donné le plus petit plaisir, la moindre tendresse. J'allais vers mon but sans me laisser dévier. Je n'étais pas là, les 4 fers en l'air, pour jouir comme une garce, mais pour châtier, pour propager la contagion, comme se propage un incendie avec le désir d'exterminer, de tout exterminer. Ces pensées orgueilleuses retentissaient en moi, la putain rouge comme certains coups de feu d'un mois d'octobre qu'il ne m'a jamais été possible d'oublier. Ma monstrueuse entreprise de péché voyait ses horizons s'élargir de jour en jour. Moi, je me voyais déjà comme une sainte sans église. Quelqu'un finirait bien par m'inventer une religion, un culte. Mon péché d'orgueil était aussi démesuré que mon nom, Maria Republica.
Plus le feu et la mitraille, plus les fusils et les canons, fondant le monde des entailles, couvrant les morts, les peines et les ballons. Puisque les hommes sont des sauvages, qui réunit la fraternité. Femmes debout, femmes à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en la somme, en 20 secondes, des régiments. L'enfant qui fut ton esprit.
déclare la grève des mères. Au bout, on crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang. La bas la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre les barrières? Pourquoi l'éternel crucifié? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre. Arrête la fécondité. Déclare la grève des mères. Au bout on crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang. Abat la guerre et les tyrans.
Variation.
Variation.
Poésie contre débouche du politique, on éclabousse de la poésie contre débouche du politique.
Mise en voix.
Mise en bouche. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie contre débouche du politique, on éclabousse.
Du politique, on éclabousse. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h.
C'était Variation.
La plus belle de toutes les émissions.
Une émission de caractère.
Salut. 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 Salut.